Impro blabla. Discussion et échange autour de l'impro, la vie et tout ce qu'il y a entre les deux. Bienvenue pour cette première édition de Impro Blabla. En cette période un petit peu spéciale, on s'est dit que c'était l'occasion de renouer des contacts avec des amis de plus loin et d'ailleurs. On a donc recontacté plusieurs personnes qui étaient venues faire de l'improvisation au Québec, tout droit venues d'Europe. Alors je suis en présence vidéo de Monsieur Xavier Alfonso, qui vient tout droit de Suisse. Bonjour Xavier, ça va bien ?
Salut, ça va bien toi ?
Ah bah oui. Alors Xavier, tu étais venu avec la troupe d'Impro Riviera. C'était en janvier 2015. Vous étiez venu pour participer à l'Open de la LUI. Si je me souviens bien, en retraçant les archives, c'était la deuxième fois que vous y participiez.
Ouais.
Et donc on avait joué un petit match dans le cadre avec la Rocambolesque. Je me souviens, c'était à l'époque on jouait à l'Union Française. J'ai retrouvé les infos de ce match-là, de la tournée que vous aviez faite. Je sais pas si tu as gardé contact avec eux, mais il y avait dans les alignements, il y avait Odile Cantero, Florence Wavre.
Florence Wavre, si elle écoute, elle va se fâcher si tu dis Wavre.
Paul Bérocal, Gaspard Kuhn.
Kuhn, ouais.
Et Gabriel Sparti. Donc on avait eu du fun à ce match-là, ça avait été chouette. Ensuite vous étiez parti à Québec jouer ce gros tournoi qui est l'Open de la LUI. Je sais pas si tu as gardé contact avec, avec tout ce monde-là. Est-ce que...
Oui, alors écoute, depuis 2015, bien sûr qu'on a gardé contact la plupart d'entre nous. Après il y a eu beaucoup de déplacements. Aujourd'hui Gaspard Kuhn, il est journaliste lui à la télévision. La radio-télévision suisse, donc aujourd'hui il est à Washington, il vit à Washington, il est en fait le référent pour tout ce qui est États-Unis pour la radio-télévision suisse, et Gabriel Sparti est en ce moment en Belgique en train de terminer une école de théâtre, donc voilà, c'est les autres, on est resté en Suisse, Florence Wavre qui va devenir maman, Odile Cantero qui continue à faire des tournées internationales tout le temps, et rarement en Suisse en fait, Odile. Elle est tout le temps partout, et aussi en Suisse bien sûr, mais souvent ailleurs. Et puis Paul et moi qui sommes encore dans la région de la Riviera, voilà.
Ok, donc tu fais encore partie d'Impro Riviera ?
On fait Impro Riviera, c'est une grosse structure dans notre région en fait, dans laquelle il y a plusieurs troupes différentes qui sont installées dedans. Comment te dire ? Oui, on fait toujours partie, peut-être un peu moins précis que d'autres années où on faisait partie du comité ou autre. On a tous évolué dans d'autres structures aujourd'hui, puisque Impro Riviera, c'est plutôt une structure amateur qui s'occupe plutôt d'équipes de formation. Mm-hmm. Et nous, on a évolué plus dans d'autres structures plus professionnelles aujourd'hui.
Et toi, plus personnellement, ton parcours en improvisation, ça a commencé quand ?
Alors en Suisse, la plupart d'entre nous, pas tous, hein, mais la plupart d'entre nous, on commence à l'école, puisqu'il y a des cours facultatifs à l'école, un petit peu comme chez vous en fait. C'est notre gros lien Québec-Suisse, je pense, contrairement à peut-être d'autres pays francophones où ils ont moins d'improvisation à l'école. Nous, on a des cours facultatifs proposés par les écoles. Donc on commence à 11-12 ans, on commence l'improvisation, donc c'est ce que j'ai fait, j'ai commencé vers 11-12 ans. Puis ensuite, on a continué pour devenir junior, amateur. Et certains d'entre nous, on est devenus professionnels par la suite, en improvisation et au théâtre, de manière générale. Donc, mon parcours, c'est ça.
Ouais. Donc, c'est principalement avec Impro Riviera que tu as évolué ?
Dans mon enfance, oui, exactement. Enfin, dans mon adolescence aussi, j'ai grandi avec Impro Riviera et l'Association vaudoise des ligues d'improvisation, qui est notre association de notre canton, qui regroupe… Donc, canton, c'est… Comment on dit ça au Québec ? C'est la région, j'imagine. Ouais. Ouais. on est plus de 1000 membres en fait dans cette association, donc c'est une grosse association, donc on a évolué là-dedans en faisant beaucoup de matchs d'improvisation, puis après on a grandi en faisant d'autres spectacles, d'autres concepts courts ou longues formes.
Je voulais revenir un petit peu sur la tournée que vous aviez faite en 2015, puis même je voulais savoir un petit peu c'est quoi les souvenirs que vous avez gardés de ces passages-là, comment ça s'est organisé,
alors il y en a tellement en fait. L'idée de base, c'est une troupe québécoise, pas d'impro, de meurtre et mystère, vient tous les ans jouer en Suisse. Et dans cette troupe québécoise, il y a beaucoup d'improvisateurs. Et puis, une année, Nicolas Drolet est venu. Nicolas Drolet qui fait partie de la LIC, encore aujourd'hui. Nicolas Drolet faisait partie de cette troupe Meurtre et Mystère. Et puis, on a eu l'occasion de faire un match en Suisse. Un petit peu comme ça, un petit peu. C'était sur un coup de tête. On a dit, si on faisait un match ensemble. Et puis, on a organisé un match en 2 semaines. Assez rapidement, sans une salle. Et puis, c'était super. Et puis, on s'est amusé. Et puis, Nicolas Odile et moi, on a discuté à la fin de ce match, on discutait ensemble après en mangeant quelque chose. Et puis Nicolas a dit, non mais vous, franchement, ça serait vraiment bien que vous veniez à l'Open de la Lui, quoi. Puis on a dit, mais bien sûr, avec plaisir, nous on rêve de venir à Québec faire de l'impro, la maison mère du match d'impro. On vient quand tu veux. Et voilà, en quelques mois, on a organisé ça. Puis on était allé à l'Open de la Lui pour la première fois. Et puis après, on a créé une petite histoire d'amour avec les organisateurs de l'Open de la Lui et de la Lui en général, puisqu'on y est retourné 5 fois, il me semble, en tout.
Qui ils sont venus chez vous?
Nicolas est revenu de temps en temps, Nicolas Drolet et d'autres improvisateurs québécois. Récemment, la LIC a été invitée à un festival ici qu'on a joué il y a un mois, juste avant tout ce qui se passe en ce moment. Sinon, on est invité en tout cas à l'Open de la Lui régulièrement et puis on se permet de faire une tournée après par la suite. C'est pour ça qu'on vous a rencontré aussi à Montréal et puis à Trois-Rivières. On essaye d'aller un petit peu le plus possible partout pour rencontrer du monde.
Et je voulais savoir, est-ce que ça a correspondu un petit peu aux attentes que vous aviez quand vous êtes venu faire des matchs au Québec? Est-ce que c'était ce à quoi vous attendiez? Vous avez eu comme le fameux choc culturel?
Bien sûr. Alors, écoute, je dois être franc, je dois jouer la franchise. non, c'était super, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que nous, en tant que petits Suisses, les Suisses, on est connus pour être discrets. C'est un petit peu notre particularité ou alors notre défaut, je ne sais pas. En tout cas, on est connus pour être neutre, discret, calme, lent. C'est un petit peu l'image qu'on a de nous. Et je pense qu'elle est un petit peu véridique. Et c'est vrai que chez nous, l'improvisation, en tout cas, comme on l'apprend, faisant du match d'improvisation, la compétition, par exemple, c'est quelque chose qui est très anecdotique. Ouais. Et même, c'est quelque chose qu'il faut essayer de mettre de côté. Et puis, quand on est arrivé à l'Open de la Lui, il est vrai qu'il y avait une vraie compétition. C'est un vrai, chaque groupe voulait vraiment représenter sa troupe et essayer d'être number one, quoi. Et puis, nous, en fait, c'est vrai que l'accueil, à la base, l'accueil de la Lui était super. Après, la rencontre avec les autres équipes, il a fallu qu'on s'adapte à cette stratégie de jeu, de se dire, OK, avant le match, on n'est pas potes, quoi. Avant le match, on ne parle pas, on se serre juste la main avant de jouer. Et après le match, par contre, alors là, on boit des bières comme si on était super potes. Mais alors, avant le match, il y a une concentration très sportive, je dirais, de l'improvisation. Au début, ça nous a un petit peu perturbés parce qu'on n'avait pas l'habitude de ça. Après, on s'est adapté assez vite. Je pense que c'est la force aussi des Suisses, vu qu'on a une culture inspiré des autres pays plutôt que de la nôtre, on s'est inspiré rapidement de la culture québécoise et puis on a essayé de s'adapter. Et puis, ça a marché puisque maintenant, on s'apprécie beaucoup et puis on y retourne souvent, en s'adaptant à ce style-là. Pour te dire, au point où la deuxième année, on a pris un coach québécois pour essayer d'être plus dans la gagne et puis de jouer des stratégies de jeu pour essayer de gagner, quoi. Donc vraiment, on s'est vraiment prêté au jeu et je pense que la plupart, je ne vais pas parler pour les autres, c'est pas mon rôle, mais en tout cas, moi, si je dois parler de moi, et je sais que certains d'autres étaient aussi motivés que moi, à avoir cette envie de jouer le match d'impro comme il se joue à Québec, c'est-à-dire se battre, quoi. Ouais. C'était assez drôle.
Ben, c'est vrai que c'est drôle. Ben, moi aussi, quand j'ai commencé à faire de plus en plus de matchs, me rendre compte que, peut-être, comme je disais, se prendre au jeu, le fait de vouloir gagner absolument, mais c'est tant qu'on a conscience de ce phénomène, justement, je pense que ça reste plus complémentaire au jeu que contre-intuitif.
Ouais, je suis d'accord avec toi. En tout cas, nous, ça a été un complément dans notre formation d'improvisateur de manière générale, de découvrir une autre manière de faire de l'improvisation et de se rendre compte qu'on pouvait créer de la compétition et quand même faire des improvisations construites et qui évoluaient. C'est vraiment ce qu'on nous a dit. En Suisse, on nous disait, si vous êtes trop dans la compétition, vous allez stagner, vous allez mettre en valeur votre personne, votre idée, mais vous n'allez pas évoluer avec l'équipe d'en face. C'est ce qu'on nous a toujours appris. Puis, on s'est rendu compte qu'à Québec, bah, même avec la compétition, on peut faire évoluer des histoires. Et puis, après, c'est vrai que peut-être, si je dois comparer, enfin, si je dois faire un lien entre Suisse-Québec, j'ai l'impression qu'en Suisse, dans les matchs d'improvisation, encore, si on parle que de ce concept-là, des impros construites sont... Il y a plus d'histoire peut-être qui évolue, alors que dans l'impro québécoise, il y a plus une situation qui est mise en valeur.
Et justement, c'est quoi votre rapport avec le match en Suisse? Est-ce que vous en faites beaucoup? Est-ce que, je sais pas, je pense pas, de ce que j'ai pu voir un petit peu en suivant les événements, c'est pas le fonctionnement de ligue avec quatre équipes qui tournent à chaque semaine, comme dans la plupart des ligues québécoises?
Oui, non, ça dépend. Ça dépend vraiment, chaque comédien improvisateur en Suisse romande, il y a des gens qui sont très match, et des groupes et des structures qui sont très match d'impro. Les associations qu'on connaît, l'AVLI, la FIX, c'est des associations de canton. Chaque région a sa propre association avec les troupes qui font des matchs d'improvisation de manière amateur. Après, en Suisse, il y a aussi une structure qui s'appelle Impro Suisse qui fait principalement du match d'improvisation professionnel. Et ensuite, toutes les autres troupes, et il y en a vraiment une tonne, vraiment beaucoup, beaucoup de troupes qui font de l'improvisation et qui font d'autres styles. Ouais. Ou du court form, des compagnies qui font des impros, des short form de manière générale, ou des longues formes, que ce soit au canton de Vaud, à Genève, en Valais, à Neuchâtel, pour ceux qui connaissent la Suisse, Québec, c'est un petit peu ça, ça dépend. Vraiment, c'est mitigé, c'est moitié-moitié, je dirais.
La perception un petit peu justement de l'impro au Québec, c'est sûr que c'est le match qui est le plus connu ici, le plus diffusé, c'est aussi le format qui représente un petit peu le Québec à l'international. Pour moi-même, avant de partir au Québec, c'est la première chose que j'ai appris au niveau de l'improvisation. Je suis allé voir des matchs pour voir un petit peu en quoi ça consistait. J'ai même une tendance un petit peu à considérer ça comme l'Eldorado.
C'est clair que nous, on a grandi, la plupart d'entre nous quand même, c'est en train de changer aujourd'hui. La nouvelle génération fait plutôt démarre dans d'autres spectacles que dans le match d'improvisation. Mais nous, ma génération... Donc, les 20-40 ans, on a tous été bercés dans le match d'improvisation. Dès l'âge de 11-12 ans, on a commencé à l'école en travaillant le match d'improvisation. C'est nos premiers spectacles, c'était le match d'improvisation. Et on savait que ça venait de Québec. On nous parlait de Le Duc, de Gravel. On nous parlait de la structure du match d'impro. Même moi en tant qu'enfant, je piratais les sites internet québécois pour regarder les matchs sur Télé-Québec. Parce qu'on n'avait pas le droit de les regarder. On ne pouvait pas les regarder ici avec nos VPN, là, je ne sais pas comment tu dis. Yeah. Donc, j'étais trop fan. Si je dois parler de moi, j'étais trop fan de l'impro à Québec et de Québec en général. J'écoutais c'est quoi.fm. Je voulais faire une école de théâtre à Québec. J'avais 14 ans, je voulais partir à Québec faire une école de théâtre. Wow. J'étais vraiment fan de Québec. Et puis, mes parents m'ont amené à l'âge de 14 ans à Québec pour visiter, pour voir si le pays m'intéressait, pour visiter des écoles. Et j'ai visité des écoles et tout. On était en avril, il faisait moins 25. Là, j'ai dit à mes parents, non, je tiens pas là-bas 4 ans, moi. Ah ouais, ok, tu vois, ouais, moi je pouvais pas. Je suis d'origine espagnole et du coup, me dire que j'allais être dans un pays où il faisait des moins 40, moins 50, j'étais pas prêt et je le suis toujours pas. 2 semaines c'est super, mais 4 ans, laisse tomber.
Pour revenir un petit peu avec les activités d'Impro Riviera, puis globalement, là, je focus un petit peu sur Impro Riviera parce que c'est par là qu'on vous a connu. Tu parlais du volet junior tout à l'heure. Ça m'intéresse beaucoup parce qu'on a, comme tu disais, on a pas mal de dispositifs pour les jeunes ici. Moi, par exemple, j'ai arbitré longtemps, puis maintenant je coach une équipe au secondaire, donc c'est des jeunes de 12-13 ans. Et pareil, on commence avec le match, on fait des ateliers, mais c'est très axé pour le match pour permettre ensuite de rencontrer d'autres équipes, d'autres écoles. Comment ça fonctionne, vous ? Comment ça fonctionne toujours éventuellement le volet jeune ?
Comme je disais tout à l'heure, ça commence à l'école. Ça, c'est avant d'être junior, c'est ce qu'on appelle nous écoliers. En tout cas, dans notre canton, encore une fois, notre région. On commence à entre 11 et 14 ans, on est à l'école. Entre 11-15 ans même, on est à l'école. Et après, on va à ce qu'on appelle le gymnase, ou alors on fait un apprentissage. En tout cas, quand on termine l'école, on rentre dans les ligues juniors. Et les ligues juniors, elles sont c'est entre 16 et 20 ans. Et puis là, encore une fois, tu choisis ton équipe d'impro. Il y en a plusieurs partout, il y en a plein. Nous, dans le canton de Vaud, on en a une quinzaine. Tu choisis ton équipe junior et puis tu la rejoins. Et puis normalement, tu y restes pendant 4-5 ans. C'est là où tu grandis en faisant de l'impro après l'écolier. Là. Et puis c'est là où tu formes ton équipe, où tu te fais tes grandes amitiés. Puis c'est là où on a le plus d'émotions. C'est quand on est adolescent. Et puis après ça, après 20 ans, il y a les gens qui rentrent dans des ligues amateurs. Ouais. Pareil pour faire des matchs toujours dans les mêmes structures. Et les autres qui vont dans d'autres structures, des écoles de théâtre et des ligues pro.
Ok. Et est-ce que toi, par exemple, est-ce que tu avais ton équipe en particulier? Est-ce que c'était un placement géographique hein, si je...
Ouais, pour moi, c'était vraiment géographique à l'époque, en tout cas. À l'école, j'ai commencé dans mon école, c'est sûr. Et ensuite, j'ai choisi l'équipe qui était la plus proche de chez moi, qui était la Riviera, donc l'équipe d'Impro Riviera. À l'époque, il y en avait une. Aujourd'hui, il y en a quatre, des équipes juniors dans notre petite, dans nos villes, pas loin de chez nous. Mais à l'époque, il n'y en avait qu'une, donc on l'a rejoint et c'est là qu'on a grandi. La plupart d'entre nous. Puis après, on a rencontré, en faisant des matchs d'improvisation, on rencontrait les équipes, les comédiens, comédiennes des autres équipes. Et puis c'est comme ça qu'on s'est fait des amis et qu'on a commencé à faire de l'impro tous ensemble et à développer.
Est-ce que c'était des matchs amicaux, genre, ou est-ce qu'il y avait un championnat sur l'année?
Il y a un championnat qui change tous les ans de structure parce que les comités changent et les gens qui sont dans les comités prennent des décisions différentes. Encore une fois, c'est une structure avec plus de 1000 personnes dedans. Donc, il y a beaucoup d'idéaux différents. Et puis, les gens qui rejoignent l'association et le comité en général viennent avec leurs idées et leurs idéaux. Mais en tout cas, quand j'ai grandi, il y avait quand même un tournoi assez classique des équipes qui jouent, qui perdent, qui gagnent. Après, nous, on avait ce qu'on appelle le carré d'as, c'est-à-dire les quatre meilleures équipes. Je mets des guillemets à meilleures, hein, parce que c'était celle qui avait gagné. Mais les quatre meilleures équipes se battaient jusqu'à qu'il y ait un gagnant. C'est ce qu'on appelle le carré d'as. Aujourd'hui, c'est un petit peu changé, mais je ne pourrais pas te dire. Moi, je me suis un petit peu éloigné du match d'impro en général, donc je ne pourrais pas te dire comment ça se fait aujourd'hui, mais il y a moins de compétition, en tout cas, aujourd'hui.
Okay. Je suis intéressé de savoir, est-ce que vous avez des juges pour le vote. Parce que justement, vu que c'est secondaire, c'est les parents qui viennent souvent en match, puis les parents ont tendance parfois à voter pour leurs enfants. Donc, pour histoire d'équilibrer ça, on met en place deux juges plus qui ont un vote chacun, plus le public qui compte pour un vote. Est-ce que ça existe chez vous aussi?
Alors, chez les écoliers, donc les 11-15 ans, il y avait jusqu'à l'année passée un jury. Des juges, ouais. Deux juges qui votaient et si les deux votaient et que leur vote ne coïncidait pas avec le vote du public, le point allait selon ce qu'avaient voté les deux juges. Et ça a été annulé cette année, si je ne m'abuse. Cette année, il n'y a plus de juges pour des raisons que je ne pourrais pas te citer. Écoute, je ne suis plus dans ta sauce, mais en tout cas, comment te dire aujourd'hui, il n'y a plus de juges parce que peut-être que le public s'est habitué à voter mieux, peut-être. Aujourd'hui, on a un public plus habitué au match d'impro et qui comprend comment ça fonctionne que peut-être il y a 10 ans.
Nous, ça fait longtemps que ça existe ici, puis c'est pas. C'est toujours un nouveau public. C'est toujours un nouveau public qu'il faut éduquer. Là. Donc, parfois, c'est un petit peu.
Je pense que chez nous, franchement, c'était une question surtout de. Parce qu'il devait toujours trouver deux juges, donc des personnes qui étaient expérimentées en improvisation pour pouvoir juger. Et je pense qu'au niveau. Enfin, structurellement parlant, c'était très compliqué de trouver ça pour chaque match parce qu'il y en a environ 200 par année des matchs dans notre assoce. Donc, c'était trop compliqué d'en trouver. Quoi. Ça, c'est la version moins jolie.
Bah non, mais c'est, ça fait partie des défis aussi qu'on rencontre.
C'est clair.
C'est... Ok, très cool. Pour continuer un petit peu les activités, donc on a parlé du match beaucoup. J'ai suivi un petit peu aussi, puis j'ai vu que tu avais participé notamment à une comédie musicale improvisée.
Oui, c'est une troupe qu'on a ici, qui va fêter ses 10 ans la saison prochaine. Donc ça fait 10 ans qu'on est là-dedans. Il y a également Odile qui est là-dedans, qui faisait partie de la troupe, qui est partie à Québec. La comédie musicale improvisée, c'est un spectacle long. On a plusieurs formats de la comédie musicale improvisée, mais notre spectacle classique, c'est un spectacle où on est six artistes et un pianiste officiel. Puis ensuite, dans les artistes qui existent dans la comédie musicale, il y en a qui jouent des instruments, mais en tout cas, on improvise le chant, les danses et l'histoire. Et c'est du long forme, c'est-à-dire qu'on fait une seule histoire d'une heure et demie en comédie musicale, en s'inspirant des comédies musicales de Broadway ou des comédies musicales françaises. Voilà. Ça, c'est un petit peu le spectacle qui a le plus. Est-ce que c'est prétentieux de dire ça? Je ne vais peut-être pas dire ça comme ça. Mais il y a le vent en poupe. C'est le spectacle qui a un gros vent en poupe en Suisse romande. C'est le spectacle qui fonctionne le mieux en ce moment et depuis 10 ans. En tout cas, à Lausanne, on est complet. Dès qu'on joue à Lausanne, on est complet une semaine avant, 2 semaines avant à chaque spectacle. C'est assez fou. Le public est vraiment assez friand de ça. Donc, et nous, les improvisateurs et improvisatrices, on est aussi très friands de ça puisque c'est un gros kiff de pouvoir tout faire en même temps, du chant, de la danse et du jeu. Oui, alors à la base, c'est Yvan Richardet, qui est le directeur artistique de cette compagnie, s'est inspiré des comédies musicales improvisées qui existaient à Chicago et même à Londres. Showstoppers à Londres, à Chicago, il y en a plein aussi. Et lui, il est très inspiré par l'improvisation anglo-saxonne de manière générale, depuis toujours, Yvan Richardet. Et il a dit, il faut qu'on amène ça en Suisse romande. Et il y a 10 ans, donc quand la comédie musicale improvisée s'est créée, quand il auditionne pour participer, tout le monde lui a dit, mais tu vas te péter la gueule, tu n'arriveras jamais à faire ça, c'est trop compliqué, impossible de faire du chant, de la danse, enfin, ce qu'on entend tout le temps quand on fait de l'impro. Mais là, c'est les improvisateurs eux-mêmes qui disaient à Yvan, non mais là, tu vas trop loin, attends, on ne peut pas faire une comédie musicale. Machin. On s'est rendu compte qu'en travaillant comme n'importe quel concept, en travaillant des concepts, on arrive à faire quelque chose. Et aujourd'hui, eh ben, c'est le spectacle qui a le plus de succès en Suisse romande. Donc voilà, je l'ai dit. C'est peut-être prétentieux, mais c'est surtout c'est une grosse fierté d'en faire partie. Donc c'est parce qu'il fallait faire confiance à cet Yvan Chardet, qui est une personne assez incroyable au niveau de l'improvisation en Suisse romande. Et il fallait lui faire confiance et nous, on lui a fait confiance. Et puis aujourd'hui, ben, il fournit une compagnie dingue qui fait la comédie musicale improvisée.
Et j'ai également vu, notamment, vous avez un festival.
Ça, c'est un Pro Riviera Events. Ouais, ça, c'est l'association. C'est un festival amateur des équipes de la région de la Riviera. Chaque troupe propose en fait un spectacle qu'elle veut proposer. Les troupes amateurs, donc les juniors et les amateurs. Des festivals, chez nous, il y en a pas mal, je dirais, sur la Riviera. Il y a Sfire, la compagnie du Cœur d'Or, qui est la compagnie que je dirige. Et aussi, cette année, a fait un festival pour fêter ses 10 ans avec des Québécois, des Français, et ainsi de suite. Enfin, des festivals, on les crée surtout pour se réunir, hein. Je pense que ça se fait pareil chez vous. On met le mot festival ou championnat du monde ou autre, mais c'est surtout pour le monde entier. Donc, du coup, on en fait beaucoup des festivals.
Et je voulais savoir, c'est justement quelque chose que je me suis toujours demandé. Justement, en France, en Europe, on parle de festivals. Au Québec, on a les tournois. Il y a très peu de festivals qui existent en tant que tels. Je pense, bah, à Montréal, en tout cas, il y a Improv qui existe depuis quelques années par l'Impro Montréal. On a également le Cube depuis l'an passé au Théâtre Sainte-Catherine. Il y en a peut-être d'autres que j'oublie. Je m'excuse d'avance pour eux. Mais à part ces événements-là où justement on propose des concepts à la mode justement européenne, il y a que les tournois qui permettent de rassembler ça. J'ai pas d'explication en tant que telle pourquoi on n'en a pas plus, mais je voulais savoir, vous, en Suisse, en Europe, est-ce que vous aviez déjà envisagé de faire un tournoi à la mode québécoise? Comme à l'Open Lui, avec du match de 10h du matin à 10h du soir, en continu, puis avec un classement de la compétition. Est-ce que tu penses que ça serait envisageable? Ou est-ce que ça a déjà été envisagé?
Alors, des tournois, ça existe, hein, des tournois avec des équipes, ça existe, mais c'est plutôt 2 matchs par soir. Ouais. C'est pas la mode québécoise de 10h à 22h, des matchs toute la journée et tout. Tout simplement parce que je pense que le public ici n'est pas habitué à ça. Et que si quelqu'un veut se lancer à faire ça, il pourrait bien sûr, mais comme toute habitude, il faudrait que le public se développe à l'avoir. Et je pense que chez vous, le public est habitué à se dire « Ok, c'est un week-end où il y aura des matchs pendant des heures et des heures, et puis pendant 3 jours. » Donc, les gens vont faire que ça. Chez nous, le public est plus habitué à venir voir un spectacle par soir. Exemple, là on fête les 10 ans de la compagnie du Cœur d'Or, donc ma compagnie de chez moi, et du coup on fait un spectacle original par mois. Et puis en septembre, on a décidé de faire 10 heures d'impro.
Okay.
10 heures d'impro avec un spectacle différent toutes les heures.
Ouais.
Et on a eu presque personne.
En tant que spectateur ou en tant que troupe
En tant que spectateur, les comédiens et comédiennes, il y en avait plein, plein d'improvisateurs, d'improvisatrices, c'était plein. Mais par contre, des spectateurs, sur 10 heures, on en a eu une quarantaine. Alors que notre salle peut accueillir 100 personnes et puis on est vraiment régulièrement complet à nos spectacles. Et là, pour les 10 heures, le public, en fait, ne savait pas quand venir. Il n'a pas compris quand venir, comment venir. Il n'a pas vu que il n'a pas ces codes-là. Bah, il n'est pas venu. Et puis, on s'est retrouvé avec très peu de gens.
Maintenant que tu dis ça, tu sais, quand on a des tournois justement, parfois des tournois de région ou même des tournois avec les collégiaux, c'est dans le fond, on assume le fait que parfois tu peux avoir 5 personnes dans le... Ça paraît très peu là, mais ça, c'est une réalité. Quand tu fais des matchs à 10 heures du matin, les gens ne sont pas encore réveillés. Puis le public, c'est les autres joueurs des autres équipes en fait. Mais en fait, on l'assume complètement. Et puis c'est là peut-être que le côté compétition en fait embarque plus. On est là presque pour faire une performance avec ou sans public. Fait que c'est peut-être cette approche aussi, je pense, comme tu disais, ouais, on est habitué à ça, puis ça fait partie du jeu, presque.
Ouais. Bah, il
Mais...
y en a plus, parfois plus, bah, plus, j'ai l'impression plus sportif, comme tu le dis, hein. C'est une compétition avec différentes équipes. Donc, c'est à la fin, le spectateur, bah, c'est mieux s'il y en a pour les organisateurs, mais c'est pas en fait moins grave que pour nous. Peut-être on vise plus l'aspect. Enfin, je sais pas, non, je pourrais dire ça, parce que le spectacle,
C'est
c'est
bien,
pas fou. Mais en tout cas, c'est vrai que nous, jouer devant 5 personnes, je parle pour moi en tout cas, la compagnie dans laquelle je suis. On veut pas faire autant, on veut pas dépenser autant d'énergie pour ça. Mais ça tient qu'à moi, hein. Peut-être qu'il y a d'autres gens qui ont d'autres motivations, hein. Là, je parle vraiment de moi personnellement.
ouais. Je trouverais ça intéressant justement de, à la place d'un tournoi en tant que tel, de faire un genre de justement de 10-12 heures d'improvisation avec des équipes invitées. Souvent, le nombre d'équipes il varie de 8 à 12 à 20, c'est vraiment ça brasse, mais sans faire de match en tant que tel. Je ne sais pas à quel point ce serait réalisable, à quel point les équipes au Québec seraient prêtes à ça.
Je pense que c'est toujours réalisable. Et puis nous, par exemple, les 10 heures d'impro, bah, là, pour te donner l'exemple, j'ai adoré faire ça. Surtout que j'étais 10 heures sur scène perso et j'ai adoré faire ça. Alors que j'ai fait les 10 heures, j'ai fait les 10 spectacles. Oui, j'ai fait 10 heures non-stop. C'était dingue. C'était une performance personnelle qui m'a trop fait plaisir, qui m'a trop fait du bien. Et j'ai adoré faire ça. Après, bien sûr que. Le directeur artistique que je suis concernant ma compagnie dit, mais ça va pas, on va pas refaire ça parce qu'on a perdu de l'argent. Mais par contre, l'artiste que je suis, lui, était trop fier d'avoir réussi à faire ça. Et on est avant tout des artistes, donc il faut parfois penser surtout à l'artistique avant de penser au rendement et à tout ça. Moi, franchement, je suis le premier à le faire. Et du coup, je donnais l'exemple des spectateurs pour les 10 heures, mais moi, si tu me dis, je veux faire 12 heures d'impro non-stop, bah, j'ai envie de te dire, fais-le. Tu t'en fiches, tu verras après si ça fonctionne ou pas, mais fais-le. Il faut tester, c'est en essayant les choses qu'on apprend à découvrir et à se découvrir, quoi.
C'est vrai. Puis il faut se planter aussi
C'est clair.
pour comprendre. Ok. Je voulais poser une question à propos justement du fait. Arrête-moi si je dis des énormités, mais de l'aspect un petit peu multiculturel de la Suisse. Notamment, il y a plusieurs langues officielles que sont l'allemand, l'italien, le français. Je dis pas de bêtises jusque-là.
Il y a encore le romanche, qui est
Le
une
roman.
magnifique langue des montagnes dans les Grisons.
Et est-ce que toi, tu as déjà eu l'occasion d'improviser dans, je sais pas si tu les parles, ces langues-là, mais dans différentes langues autres que le français?
Alors, ouais, personnellement, j'ai eu l'occasion de jouer dans plusieurs pays étrangers qui n'étaient pas francophones, à Chicago, en Espagne, à Londres, en Allemagne aussi. Alors que je suis vraiment très mauvais en allemand. Mais par contre, en Suisse, j'ai jamais joué en Suisse allemande ni en Suisse italienne. Tu vois. Alors qu'à Milan, j'ai eu l'occasion de jouer donc en Italie, mais pas en Suisse allemande. C'est quand même assez fou.
Est-ce que ça existe?
Ça existe, oui, bien sûr, ça existe. En Suisse allemande, ils font beaucoup de. Ils sont plutôt inspirés de Kate Johnstone pour tout ce qui est impro. Ils font du theater sport qui ressemble beaucoup au match d'impro, mais la version de Kate Johnstone. Et puis il y a aussi plein de concepts d'impro. Après, c'est vrai que pour te dire la vérité, moi personnellement, j'ai pas eu l'occasion de jouer là-bas, malheureusement. Mais j'ai joué avec des Zurichois à Chicago, ce qui est quand même assez fou. Donc des
Ça bouge.
Zurichois, c'est un canton en Suisse, et on a joué à Chicago.
Et justement, ces expériences-là, dans des langues différentes, à quel point, je voulais savoir, ça change un petit peu l'approche du jeu? Est-ce que c'est différent, même les styles culturels, en quelque sorte?
À fond, à fond. Je suis d'origine espagnole, donc quand je joue en Espagne, c'est ma langue maternelle, donc il n'y a pas de problème. Mais par exemple, jouer à Berlin en allemand, et vraiment, je ne maîtrise pas du tout l'allemand. Et du coup, j'ai joué avec le corps, en fait, j'ai joué avec l'interprétation à fond. Et je suis un grand défenseur de ça. Les francophones, de manière générale, on a tendance à beaucoup parler en improvisation, Quand tu vois les Italiens venir chez nous jouer, ils jouent beaucoup avec le corps, l'interprétation, ils ont plein de personnages. Il y a un côté très vivant aussi. Hein. Chez eux, peut-être on a moins. Et je trouve que le français, de manière générale, le français, qu'il soit québécois, français, belge, suisse ou autre, il parle trop. En impro, il parle trop. Et quand on ne peut plus parler, ouais. Eh bien, on doit trouver d'autres choses à faire. Ouais. Et pour l'improvisateur, c'est super.
Ouais, je suis d'accord.
Et on se comprend quoi qu'il arrive. Je suis un grand défenseur de ça aussi. Si l'autre, en impro, on doit s'écouter de toute façon. Et si on n'arrive pas à s'écouter à travers les mots, eh ben on va s'écouter à travers le corps et on va comprendre ce qui se passe comme histoire. À Chicago, on a joué avec des gens vraiment de partout. Il y avait des gens des Philippines, il y avait des gens d'Australie, il y avait des gens du Brésil. Et on a fait un long forme, donc une histoire d'une heure et demie.
Okay.
Et donc avec des accents vraiment des gens, tu comprenais pas un mot de ce qu'ils disaient, et pourtant l'histoire, elle tenait la route, et l'évolution de cette histoire, la dramaturgie de l'histoire était compréhensible pour tous les spectateurs qui étaient dans la salle. Et ça, c'est parce qu'on a trouvé d'autres moyens que les mots pour faire comprendre ce qu'on voulait.
Mais ok, donc vous parliez en anglais malgré tout, mais
on parlait en anglais à peu près.
Je connais bien celui-là.
Ouais. Ok, très cool. Je me souviens, ben justement, une expérience dont je me souviens par rapport à ça, c'était un spectacle de Maestro avec Mark Jane, je me souviens bien. C'était justement pendant un 12 heures ou un 10 heures d'impro, un festival avec un invité polonais, dont j'ai plus le nom malheureusement, qui avait fait tout le show. Il parlait pas français, il comprenait les consignes en anglais et ça avait donné des choses. Le public avait embarqué là-dessus, ils avaient trouvé des façons de l'intégrer dans ce spectacle-là. Puis même, je pense qu'il était allé au bout là de ce spectacle de Maestro. Je crois que la vidéo est sur YouTube d'ailleurs.
Ok, ouais. Je n'ai pas entendu parler, mais je suis sûr que c'est normal. En plus, là, il avait la particularité d'être l'artiste spécial en plus, donc les gens regardaient, ouais. J'imagine que lui, ce qui le rendait un petit peu plus important, j'imagine, dans un Maestro, c'était, on pourrait croire que c'est une contrainte, mais ouais. On sait que les contraintes, c'est ce qui nous met en valeur, donc.
J'ai encore des petites questions. Tu me dis si jamais t'as d'autres choses à faire, hein, je veux pas
te... rien du tout, on est en confinement, j'ai rien à foutre. C'est moi, parlons pendant des heures.
Au Québec, notamment pour les nouveaux arrivants ou les gens qui commencent un petit peu sur le tard, qui souhaitent faire de l'improvisation, se produire sur scène de manière amateur. Je sais pas si tu connais un petit peu le fonctionnement. Chaque début de saison, les ligues font leur camp de recrutement. Si t'es pris, t'embarques pour une saison, t'es content. Sinon, tu trouves d'autres alternatives. Il y a pas que des ligues d'impro, fort heureusement. Il y a d'autres organismes qui proposent des formations, des cours. Mais quand t'arrives, que tu connais pas ce milieu-là, justement, que t'as pas joué quand t'as pas commencé quand t'étais jeune et que tu te retrouves à connaître personne, c'est relativement compliqué, à moins d'avoir quelque chose en plus, d'intégrer des ligues d'impro. Est-ce que en Suisse, mettons que je suis quelqu'un qui arrive en Suisse, qui a potentiellement pas ou peu fait d'improvisation, qui connaît personne dans le milieu et que je voudrais jouer, comment ça se passerait? Est-ce qu'il y a des alternatives? Est-ce que c'est possible?
Bah écoute, je dirais que c'est assez similaire à chez vous. Alors il y a pas tous ces week-ends d'intégration ou comme à Québec ou au Québec de manière générale. Où c'est très très régulier en fait, hein. Pour rentrer dans une ligue, il faut faire un week-end d'intégration, puis après vous êtes choisi par des sélectionneurs et ainsi de suite. Nous, ça n'existe presque pas. Il y a une ligue qui le fait, qui s'appelle La Ligue, justement, qui est une ligue d'été, l'unique ligue d'été de chez nous. Et vraiment, c'est deux improvisateurs, Loïc Dumas et Fabrice Semedo, qui ont fait 6 mois au Québec. Mm-hmm. Et qui ont vu le fonctionnement québécois et qui se sont dit on va porter ça en Suisse. Et vraiment, ils sont inspirés de votre fonctionnement pour créer une ligue ici. Une ligue qui a beaucoup de succès, c'est la seule ligue d'été et franchement, il y a une bonne qualité. C'est une nouvelle génération très motivée, la ligue. Et ils jouent, en été, ils jouent tous les lundis comme ligue d'été. C'est plein de gens. C'est la folie. Ils sont super. Après, de manière générale, c'est pareil. C'est-à-dire que si tu commences à l'école, tu arrives à rentrer dans les équipes d'impro. Si tu ne commences pas à l'école, c'est pareil. Il y a d'autres structures aujourd'hui. Il y a des cours d'impro, il y en a beaucoup. Donc, il y a beaucoup d'équipes qui se créent pour les amateurs. De là, arriver à faire un match d'impro après par la suite, ça existe, hein, mais c'est plus compliqué. Après, il y a des troupes, des contre-troupes, j'ai envie d'appeler ça comme ça, qui se disent, OK, nous, on ne peut pas rentrer dans les ligues habituelles, donc on va faire notre propre spectacle. Et c'est comme ça que des spectacles amateurs se créent un petit peu partout en Suisse-Romande et qui sont de qualité différente, c'est-à-dire que ça dépend des troupes.
Ouais.
Mais il faut que les gens puissent en faire et du coup, ils le créent eux-mêmes. Et
c'est ça justement la question que je vais te poser. C'est quoi votre perception de ce milieu parallèle un petit peu amateur en tant que grosse organisation, si je peux mettre des gros guillemets là-dessus?
C'est une question tellement difficile, vraiment, parce que là, je vais parler pour moi, hein, encore une fois, je ne parle pas pour les autres. Je suis un grand, grand défenseur du fait que tout le monde peut faire de l'improvisation et que tout le monde a le droit d'en faire. Après, les termes doivent être précis quand il y a un spectacle qui sort. C'est-à-dire que si on vend un spectacle, parce que les gens vendent des spectacles, il y a des gens, les gens payent pour y venir, pour venir les voir. Si on vend un spectacle, il faut que les gens comprennent ce qu'ils viennent voir, les spectateurs. S'ils viennent voir un spectacle amateur ou un spectacle professionnel, c'est très différent. Et le grand problème qu'on a chez nous, de manière générale, moi je parle avec beaucoup de spectateurs qui ne viennent pas souvent voir de l'impro, mais quand on leur dit « viens voir un spectacle d'impro », ils disent « ouais, mais moi j'ai déjà vu un spectacle ». Mais c'est comme si tu disais aux gens « viens, on va au cinéma ». Non, mais moi je suis déjà allé une fois au cinéma, donc non, je sais ce que c'est. Et c'est le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que quelqu'un vient voir un spectacle d'impro et… Tout dépend où il tombe comme spectacle, bah, il va aimer ou pas aimer le spectacle parce qu'on ne lui a pas expliqué comment fonctionnait ce spectacle. Et je pense que parfois, on doit être plus précis de quel spectacle on propose. Notre spectacle est un spectacle professionnel, notre spectacle est un spectacle amateur, ça fait 3 ans qu'on fait de l'impro, ça fait 15 ans qu'on fait de l'impro. Il faut que le public qui vient voir ce spectacle comprenne ce qu'il vient voir. Ça, je pense que c'est ce qui calmerait les esprits entre les pros et les amateurs parce qu'aujourd'hui, je pense que parfois, il y a des tensions qui se créent entre gens, mais de tout bord. Et c'est pour ça, parce que les gens se volent du public, mais parce qu'on communique mal, je pense.
Okay.
C'est super pertinent ce que tu dis, parce que on est un petit peu la même école de pensée à ce niveau-là. T'sais. Moi, je suis un petit peu à me dire, plus il y a d'impro, plus il y a d'impro. Les gens qui voient ça ont envie d'en faire, puis ça transmet ça, ils jouent, leur proche vient le voir, puis c'est des vases communicants, en quelque sorte. Donc, c'est un peu comme ça que je le vois, mais c'est vrai que à Montréal, notamment pour là où je suis, il y a beaucoup de ligues qui se créent. Parfois, c'est des ligues qui tiennent 2-3 saisons, puis ensuite ça meurt de par soi-même. Il y a l'organisation peut être plus ou moins structurée. Parfois, c'est juste des amis qui ont envie de se faire un trip dans un bar pendant un été, puis ils n'ont pas de direction artistique assumée. Mais pareil, faut que ça vive. Mais il y a beaucoup ce cliché-là, enfin, ou ce running gag-là à Montréal de « Ah, bah, il y a trop de ligues d'impro ». Ce qui me dérange pas en tant que tel, justement, je suis tant mieux. Ça veut dire que cette discipline-là marche, mais c'est pas tout le monde, je pense, qui est de cette pensée. Et comme tu dis, ça peut créer éventuellement des guerres de clochers. On peut appeler ça comme ça.
C'est clair, mais parce qu'on est… Je pense qu'aussi, on est des humains, puis on est fait comme ça, malheureusement. On veut tirer la couverture à soi, et puis chez les autres, l'herbe, elle est moins cool. Je sais pas si c'est une expression. Chez les autres, mais on va la garder. Chez les autres, l'herbe est moins cool. Voilà. Écoute. On a toujours une utopie, et puis après, il y a la réalité. Et puis, il faut jouer entre les deux, quoi. Mais c'est aussi, par exemple, en Suisse romande, c'est aussi grâce à tous ces amateurs que beaucoup d'improvisateurs professionnels gagnent leur vie puisqu'ils vont donner des stages, ils vont donner des cours, et puis ils sont payés pour ça. Et du coup, il faut que ces gens existent aussi pour faire fonctionner notre Schmilblick, nos factures, pour qu'on puisse payer nos factures, parce que c'est pas qu'avec des spectacles. Ils sont rares les artistes suisses qui peuvent dire qu'ils gagnent leur vie qu'en faisant des spectacles. Ça existe, on existe, mais il y en a peu. Et du coup, les cours nous permettent aussi de gagner notre vie et aussi en plus d'apprendre à faire de l'impro, parce qu'on sait très bien, on le sait quand on est formateur d'impro, qu'on apprend beaucoup quand on forme.
Ah oui.
Ok. On approche doucement de la fin des questions que j'avais préparées, mais si jamais il y a des choses dont tu veux parler, gâte-toi.
Ouais, comme ça. Moi, ça fait 3 ans que je ne viens plus à Québec, je crois, ou 4, et ça manque beaucoup. J'aimerais y retourner bientôt. Ça, c'est moi personnellement, mais on en parle. Hein, mais là, les Québécois sont venus jouer chez nous récemment. Et puis, c'était vraiment un grand, grand plaisir, encore une fois, de jouer avec ces gens-là. Ouais. Et puis, il y a le garçon de 14 ans, le Xavier de 14 ans, qui est toujours fan en fait de cette partie-là du monde. Et ouais. À chaque fois qu'il y va, il a les grands yeux. Quoi. C'est Walt Disney pour moi, le Québec. Donc, j'aimerais y retourner bientôt.
Et justement, tu parlais du toi de 14 ans. Comment toi, tu te vois je sais pas quel âge tu as exactement. Je ne voudrais pas non plus avoir l'indélicatesse de le dévoiler. Mais comment tu te verrais, toi, dans 10 ans, 15 ans, au niveau de l'impro? Est-ce que tu penses que tu continueras? Est-ce que dans quel sens tu penses que tu auras évolué?
Waouh,
écoute, c'était pas prêt.
Je suis un artiste comblé en Suisse romande. Je suis un artiste comblé, c'est-à-dire que ça fait des années que je vis de ma passion, que ce soit avec l'impro ou le théâtre ou la comédie musicale de manière générale, et que 50% de mon travail professionnel, c'est de l'improvisation théâtrale. Et c'est magique. C'est magique de pouvoir vivre de l'improvisation théâtrale. C'était un rêve, encore une fois, l'enfant de 14 ans, il voyait des matchs d'impro, il disait « Ah, mais il y a des gens qui sont payés pour faire ça, moi. J'adore être payé pour faire ça. » Et aujourd'hui, j'y arrive. Et moi, ce que je me souhaite, c'est que dans 15 ans, je puisse continuer à être improvisateur et comédien, parce que les deux se valent et les deux sont complémentaires. Parce que faire du théâtre écrit, c'est magique pour travailler un personnage, pour développer quelque chose à moyen terme. Et puis faire de l'improvisation, c'est magique pour l'imagination, pour l'auteur qu'on est, pour le metteur en scène qu'on est. Moi, je trouve que c'est grâce à l'impro que j'ai appris à écrire des histoires, que j'ai appris à mettre en scène des spectacles. Et aujourd'hui, quand je suis mandaté pour mettre en scène ou écrire un spectacle, j'écris très vite ou j'ai des idées très vite. Et ça, c'est grâce à l'impro, parce que je commence pas à me dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Je fais. Et après, je regarde si c'est pas bien. Et avec l'impro, on n'a pas le droit de. Hein, si on fait, on fait. Puis après, on s'adapte si c'est moyen. Mais l'école de l'impro, elle est là. Donc, écoute, moi, si je dois souhaiter quelque chose au mec dans 15 ans, au Xavier dans 15 ans, là, je lui souhaite d'être. Comment dire ça? Je pense que je lui souhaite de continuer de faire tout ce qu'il fait avec simplicité. Sans tension avec d'autres personnes, d'autres artistes, d'autres structures. Ouais. On n'a pas besoin de ça pour réussir. Et quand on réussit, on est détesté. Quand on ne réussit pas, on est détesté. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrête de se détester un peu entre nous et qu'on développe un peu de simplicité pour continuer à faire ce qu'on aime tous. Ouais.
Okay.
Ouais. C'est ça que j'ai envie de dire au mec dans 15 ans. Il reste simple, continue à aimer les autres.
Bon, on espère qu'il aura le message. Non, mais c'est vrai que c'est une question que parfois je me pose. Ça va faire 10 ans bientôt là, que je fais de l'impro, que j'ai commencé à jouer. J'ai développé, j'ai commencé à former, à arbitrer, à coacher, à faire plein de choses différentes. Puis je me dis à chaque fois, à quel moment je vais, pour utiliser un terme québécois, à quel moment je vais être tanné, à quel moment je... Puis quand je dis, pour le coup, je fais ça pareil intensément. Moi, c'est 5 soirs de semaine où je suis dédié à être dans un événement d'improvisation, que ce soit un atelier ou que ce soit un spectacle à regarder même. Puis pour l'instant ça va, tu sais, mais je me dis, est-ce que ça va m'arriver? Ça, c'est la grande question, parce que j'en vois aussi des gens avec qui j'ai évolué qui ont fait d'autres choses, qui ont fait le tour. Donc mais je pense que c'est une question de réussir à se renouveler, à voir différentes choses. Je pense que c'est un peu ça aussi par là que t'as dû passer.
Bien sûr, moi c'est clair. Mais après on se renouvelle et puis on se découvre et puis comme toi, pour l'instant j'ai pas fait le tour et j'espère jamais faire le tour. Mais toi tu dirais quoi? Toi tu dirais quoi à ton toi dans 15 ans?
J'ai préparé les questions mais j'avais pas préparé la réponse.
Dans 15 ans, et ça aura peut-être une info.
Ouais, ça serait moi dans 15 ans. En vrai, il y a beaucoup une notion de transmission dans ce que je fais. J'aime énormément découvrir des gens, accompagner des gens qui en sont à leurs premières expériences, à leurs premiers tâtonnements d'improvisation, puis les amener jusqu'à le petit déclic de « Ah, il y a quelque chose que ça peut m'apporter. » Je passe de timide à j'ose faire des choses. Donc c'est vraiment ça qui m'allume dans ce que je fais. Donc peut-être cette notion de transmission-là, de permettre aux gens d'accéder à ce qu'ils veulent. Après, je ne me considère pas non plus comme, en tant que joueur, je ne suis pas un joueur de haute catégorie. Je m'amuse, puis je pense à être de ce style de créatif qui essaye d'essayer des choses. Mais je sais que je peux être limité parfois dans certains contextes par rapport à d'autres joueurs qui sont beaucoup plus impressionnants. Donc, une fois que les gens sont plus expérimentés, à quel point je peux leur apporter encore des choses? Donc, peut-être le moi dans 15 ans, on sera peut-être capable de ça, tu sais, à force d'emmagasiner de l'expérience, de comprendre de plus en plus de choses, d'avoir découvert d'autres choses. Mais bon, c'est sûr que, comme je dis, j'espère dans 15 ans, j'aurai toujours la flamme. Puis, au pire, si je ne l'ai pas, ça veut dire que ça m'aura amené ailleurs,
Ouais,
peut-être. Peut-être qu'il y aura d'autres
exactement.
disciplines qui auront été créées, peut-être que l'improvisation sera rendue. Il y a de plus en plus de shows d'improvisation par webcam maintenant. Je sais pas si toi t'en regardes un petit peu.
Oui, alors bah là, c'est l'occasion, quoi.
C'est vraiment.
Comment on sera dans 15 ans? Ouais. C'est vrai que si on pense au monde, on pense autrement, mais pensons pas à tout ça, pensons plutôt, soyons optimistes. Je suis un optimiste de nature, j'espère le rester.
Non, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est la situation amène à chercher d'autres alternatives, à d'autres opportunités. C'est là que vient aussi l'idée de podcast. C'est ça. Je pense pas que j'aurais eu l'esprit ou l'énergie de faire ça si tous mes projets n'avaient pas été annulés pour les 2 prochaines semaines. Donc,
Ouais.
on voit ça comme une opportunité. Puis j'espère pouvoir continuer comme ça.
Ben, en fait, ben là, si on parle du coronavirus, je trouve ça assez mal. Enfin, c'est horrible ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Mais par contre, je trouve magique de voir que l'artistique ne meurt jamais. Chez nous, tous nos spectacles ont été annulés. J'imagine chez vous, pareil. Tous les artistes sont au chômage, professionnels et amateurs, bien sûr, mais tout le monde est au chômage technique. Et les artistes auraient pu se dire. Chez nous, on a deux écoles. Il y a ceux qui disent, on ne se sent pas obligé de produire. Ne vous sentez pas obligé de produire. Prenez ce moment comme un moment pour vous, un moment dans une parenthèse dans la vie. Et je trouve ça assez magique et assez juste. Mais par contre, ne vous empêchez pas de produire si vous voulez produire. Et je pense, il y a plein de gens, plein d'improvisateurs ou d'artistes, musiciens, auteurs qui n'ont qu'une envie, c'est de produire et ça leur manque. Et aujourd'hui, ils trouvent d'autres moyens de produire. Ce que tu fais, toi, aujourd'hui, là, c'est un moyen de produire quelque chose. C'est de la production et. Bah, moi je suis très ému de voir en fait que l'artistique ne meurt jamais, quoi. On pourra faire ce qu'on veut dans le monde, de toute façon il y aura de l'art. Il sera différent peut-être, mais il y en aura toujours, quoi. C'est sûr. On en a besoin en voir et en faire pour nous, mais aussi en voir, quoi. On sent le besoin de. On a des gens qui nous suivent dans les vidéos. Moi, je vois. Moi, j'ai pas encore fait de podcast. On va en faire bientôt avec notre compagnie. On va faire un time's up. Nous, on va pas faire de l'artistique. On va faire un time's up en direct. Mais ce qui est très cool. Je vois à quel point là, dans les lives Instagram, ça a un succès fou parce que les gens ont besoin de voir des choses,
d'avoir des contacts.
d'avoir du contact et de la vie, quoi. On est fait comme ça. Et moi, ça me donne foi en l'humanité, tout ce qui se passe là, étonnamment. Étonnamment.
De bien belles paroles. Bon. Je pense qu'on, je vais pas dire qu'on a fait tout le tour parce qu'on n'aura jamais fait tout le tour de toutes les
Bien
discussions
sûr.
possibles, mais on a quand même parlé de pas mal de choses. C'était super pertinent. Ça remplit un petit peu mon besoin de contact aussi personnel. Merci.
Pareil, pareil.
C'est très égoïste en
J'adore.
fait. C'est très égoïste ma démarche. C'est juste pour moi, pour pouvoir parler à du monde.
Non, mais c'est super.
On aura l'occasion sûrement de rester en contact. C'est l'impro, ça nous sert à ça aussi, hein, beaucoup à rencontrer du monde. Donc très
Mais
content.
bien sûr.
Moi, je suis très content d'être tombé sur cette discipline-là et
C'est clair.
tout ce que ça apporte.
Bon, ben, monsieur. Merci pour ça. Un plaisir d'avoir discuté avec toi.
Cool.
Puis si jamais vous retournez au Québec un jour.
Ouais, on se tient au courant à fond dans le
C'est
monde.
bien.
À fond. Bon, alors à bientôt, hein.
À bientôt, bon courage.
Allez, ciao, ciao.
Improblabla est un podcast proposé par les membres de la Rocambolesque. Retrouvez toutes les éditions sur les plateformes d'écoute de Spotify, iTunes et Balado Québec. Vous pouvez vous aussi faire partie de la discussion en nous rejoignant sur la page Facebook de la Rocambolesque, improvisation traditionnelle et expérimentale.